Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Soccer love.
Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue à Soccer Sport tous les lundis soirs 20h-21h, c'est FAC, 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta est votre animateur encore une fois cette semaine et aujourd'hui au menu, eh bien on va parler presque uniquement de soccer, de ballon rond. Donc tout d'abord, on va parler dans la deuxième partie de l'émission du CF Montréal qui jouait ce samedi dernier du côté du Stade Saputo pour leur premier vrai match d'ouverture là au Stade Saputo contre DC United qui est une équipe quand même assez très moyenne. Et donc on va voir si l'équipe du CF Montréal a bien joué ou pas. Je vais vous en parler tout à l'heure. Également, on va débuter l'émission pour parler de la Ligue espagnole, puisque la Ligue espagnole, il y a des choses intéressantes qui se passent dedans, là, notamment avec l'équipe de Valence, avec le FC Barcelone, avec le Real Madrid. Très important d'en parler. Et on va parler aussi de la Ligue des champions, puisqu'on a des matchs de quart de finale retour, mesdames et messieurs, mardi et mercredi. Et on va en parler pour conclure l'émission tout à l'heure. On va avoir, bien évidemment, Manchester City, Bayern Munich. On va parler également Real Madrid. On va parler Chelsea. On va parler Napoli. On va parler AC Milan, Inter Milan, Benfica. On va parler de tout ça. Tout ça, on va en parler tout à l'heure. Et on aura peut-être un petit mot pour Arsenal et la Ligue anglaise, puisqu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé le week-end dernier dans la course au titre de champion d'Angleterre. Et peut-être que c'est des bonnes, peut-être c'est des mauvaises nouvelles pour Arsenal et ou Manchester City. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Maintenant, pour commencer l'émission, on va vous parler de la Ligue espagnole, puisque la Ligue espagnole, j'en ai pas parlé beaucoup ces dernières semaines. On le sait, c'est une Ligue qui a vu des belles heures durant ces dernières années, surtout quand Ronaldo et Messi étaient là. C'était une Ligue prisée que tout le monde regardait. Certains disaient même que c'était la meilleure Ligue au monde. Et à l'heure actuelle, quand on regarde la Ligue espagnole, chers auditeurs, on se rend compte de quelque chose. C'est que le niveau est quand même assez faible quand on la compare avec d'autres ligues comme la Ligue anglaise, par exemple, ou la Ligue italienne. On se rend compte que l'équipe qui est en première position de ce championnat-là, qui s'appelle le FC Barcelone, n'est même pas qualifiée pour une coupe européenne, que ce soit la Ligue des champions, que ce soit la Ligue Europa, puisqu'ils se sont fait éliminer des deux compétitions. Et également, en Coupe du Roi, ils ne vont même pas disputer la finale, puisque se sont fait éliminer. Mais en Ligue espagnole, ils vont quand même bien, puisqu'ils ont 29 matchs joués, 23 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites, 53 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc, c'est de loin la meilleure défense du championnat espagnol. Donc, ils ont encaissé seulement 9 buts en 29 matchs. La deuxième meilleure défense espagnole, là, c'est le Real Madrid, puis ils en ont accordé 24. Donc, c'est plus que deux fois plus. Et puis, à domicile, surtout, le FC Barcelone, en 14 matchs, a accordé seulement 2 buts. Donc, 14 matchs à domicile, 11 victoires, 3 matchs nuls. Mais ça reste que le Real Madrid, en Ligue espagnole, cette année, c'est pas jojo, c'est seulement 62 points. Donc, 29 matchs joués, 19 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites. C'est la meilleure attaque du championnat, par contre, avec 61 buts. Donc ça, il faut leur donner. Mais on sent que le FC Barcelone se promène dans une Ligue espagnole qui est, je vous dirais, bonne. Mais c'est pas la Ligue espagnole des autres années, là, avec un Atlético Madrid dominant, un Séville dominant. Quand on regarde là, les autres grands du championnat espagnol, Valence, ça va très mal. Villarreal, c'est correct. Le Real Betis, c'est correct. Sociedad est quatrième à l'heure actuelle et c'est pas non plus une équipe spectaculaire. Quand on pense à Séville et à Valence, c'est dans les bas-fonds du classement, surtout en ce qui a trait à Valencia, qui est Valence d'ailleurs. Et quand on regarde le nombre de points dans les autres championnats, le FC Barcelone a 73 points en 29 matchs joués. Et quand on regarde Manchester City avec 30 matchs joués, ils en ont 70. Donc on peut dire que pour le nombre de points dans le championnat, c'est quand même bon. Maintenant, on va vous donner les résultats du week-end dernier dans le championnat espagnol. Tout d'abord, on commence ça là, le 14 avril. Rayo Vallecano a battu Osasuna 2-1. Villarreal a perdu à domicile 2-1 contre Valladolid. Ça, c'est une surprise quand même parce que Valladolid a 32 points en 29 matchs. Puis, ils sont pas très loin de la relégation eux aussi. Donc, ça a été 3 points super importants pour cette équipe. L'Athletic Club de Bilbao a battu la Real Sociedad dans un derby du Pays Basque 2-0. Avec encore une fois un but de Iñaki Williams et il en a en effet marqué 2. Côté Real Betis a battu l'Espagnol 3-1 du côté de Séville avec des buts de Juan Miranda, Ayosé Pérez et William Carvalho. Du côté de l'Espagnol Barcelone, c'est César Montes, le Mexicain, qui a marqué. Et le Real Madrid se déplaçait en Andalousie contre Cadiz, qui est une très belle ville andalou, notamment qui a des belles plages, mais au niveau du classement, c'est so-so. Ils ont perdu 2-0 avec des buts de Nacho Fernandez et Marco Asensio. Benzema était titulaire pour ce match-là. Getafe, ou en français Getafe, mais en espagnol on dit Getafe, qui est une équipe de la région de Madrid, a fait match nul 0-0 avec le FC Barcelone. Ça, c'est un point important pour Getafe qui se bat pour la relégation également. Puisqu'on le rappelle, dans le championnat espagnol, les trois dernières équipes, donc la 18e, 19e et 20e, eh bien, ces trois équipes-là sont reléguées en deuxième division espagnole. Et donc, à l'heure actuelle, là, c'est une course à presque 7-8 équipes pour savoir qui y sera et qui descendra. Atlético Madrid, ça se passait hier contre Almeria, une autre équipe de l'Andalousie qui se déplaçait du côté de la capitale espagnole. Eh bien, l'Atlético Madrid a gagné 2-1 avec un doublé de notre ami Antoine Griezmann avec des passes de Angel Correa et Yannick Carrasco. Et le dernier match de la semaine, mis à part celui qui s'est joué aujourd'hui, mais comme vous le savez, c'est une émission une émission pré-enregistrée. Il y avait un match très important, c'était Valence qui recevait Séville. Et Séville, cette année, ils se sont battus longtemps pour ne pas être relégués. Et cette année, à l'heure actuelle, ils ont 12e avec 29 matchs joués, 35 points. Le premier relégable à l'heure actuelle, c'est Valence, avec 29 matchs joués, 27 points. Ensuite, le 19e, c'est l'Espagnol, 29 matchs joués, 27 points. Et Elche, qui est bon dernier, avec 29 matchs joués, 13 points. Donc, eux, ils sont pratiquement assurés d'être relégués. Et Valence a perdu à domicile 2-0 contre Séville. Ça a été une surprise au niveau des bookmakers, parce que les bookmakers mettait Valence largement favori. La cote de Séville pour gagner ce match-là à l'extérieur était de 3,75 et j'en ai profité d'ailleurs. Cavani, lui, joue toujours à Valence, même s'il ne fait pas grand-chose. Dans ce match-là, il y a un carton rouge pour Valence et surtout, il y a eu deux pénaltys qui n'ont pas été donnés à Valence, qui auraient très bien pu l'être. Ils étaient en furie après l'arbitre espagnol. Et puis, le premier but de Séville, il y avait une petite faute que l'arbitre aurait pu siffler. Et c'est quand même intéressant parce que généralement au soccer, ça n'arrive pas tout le temps, mais souvent, l'équipe locale a des fois quelques petits avantages, rien de trop flagrant. Et mais dans ce cas-ci, l'arbitre espagnol, là, Carlos del Cerro Grande, eh bien, il a été vraiment là, il n'a pas aidé du tout Valence. Et je pense même qu'il aurait dû au moins leur donner un tir de pénalité à l'équipe de Valence. Ça se passait du côté de Valence en Espagne, dans le stade Mestalla. Il y avait 39 654 personne. Et du côté de Séville, eh bien, c'est Souso et Loïc Badé qui ont marqué les deux buts pour cette équipe-là. Et donc, c'est une victoire très importante pour Séville qui, avec cette victoire-là, eh bien, ils sont quand même à 8 points de la zone de relégation. Donc, ils devraient, somme toute, s'en tirer pour la relégation cette année et passer directement à la saison prochaine, puisque Séville, à l'heure actuelle, ne joue aucune coupe européenne. Il ne joue aucune Coupe du Roi. Et donc, c'est quand même, il ne joue aucune coupe européenne. Je parlais de la Ligue des Champions. Il joue la Coupe de l'Europa League, qui est la deuxième coupe importante en Europe. Ils ont fait match nul lors du match aller 2-2 avec Manchester United du côté anglais. Et donc, ça a quand même été un très bon résultat, parce que Manchester United menait 2-0 dans cette compétition européenne. Et ça a été deux own goals, deux buts contre son camp qui ont été marqués par Manchester United de Harry Maguire et Tyrell Malacia à la 84e et à la 92e minute. Il y aura un match retour le 20 avril à 15h du côté de Séville. Donc les yeux seront rivés sur l'Andalousie une autre fois. Et donc, voilà. Maintenant, au niveau du classement, qu'est-ce que ça donne? Barcelone, premier avec 73 points. Deuxième, le Real avec 62. L'Atlético de Madrid, troisième avec 60. Quatrième, la Real Sociedad avec 51 points. Le Real Betis d'Andalousie, cinquième avec 48 points. Villarreal, sixième avec 47 points. Et septième, l'Athletic Club Bilbao avec 43 points. Et Rayo Vallecano, huitième avec 40 points. J'arrête là parce que les places importantes, c'est de la première à la sixième place. Et les relégables, c'est de la 18e à la 20e. Donc, concernant les équipes dans le haut du classement, à l'heure actuelle, les quatre premières équipes sont qualifiées pour la Ligue des champions. Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid et Real Sociedad. La cinquième équipe est qualifiée pour la Europa League qui sera probablement le Real Betis ou Villarreal qui est sixième et à l'heure actuelle qualifiée pour la Conference League. Mais tout ça peut changer. Et je vous le rappelle, le gagnant de la Coupe du Roi est qualifié automatiquement pour la Ligue Europa. Et le Real Madrid, sachant qu'il sera probablement qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Si le Real Madrid gagne, ça se pourrait que ce soit Osasuna, l'équipe perdante, qui se qualifie pour l'Europa League. Ou ça dépend des championnats. Des fois, on peut accorder aussi la 7e place. Donc, si Osasuna bat le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, non seulement ils gagneront un trophée, mais également ils participeront à une compétition européenne. Donc voilà. Au niveau de la relégation, eh bien là, c'est intéressant parce que j'en ai déjà parlé tantôt. Valence 18e, Espagnol 19e, Elche 20e. Almeria est 17e avec 30 points. C'est 3 d'avance sur le premier relégable. Cadiz de l'Andalousie, encore une fois, est 16e avec 31 points. Getafe est 15e avec 31 points. Et Valladolid est 14e avec 32 points. Et Mallorca en a 34, ce qui quand même, il devrait somme toute pouvoir se sauver. Mais donc, de la 14e à la 20e place, là, à la 19e place plutôt, ces équipes-là vont se battre pour deux places relégables. Donc, il y a deux équipes qui vont se faire reléguer parmi ces équipes que je viens de nommer, qui sont Valladolid, Getafe, Cadiz, Almeria, Valencia et l'Espagnol de Barcelone. Au niveau des meilleurs buteurs de ce championnat espagnol, on a bien sûr Lewandowski avec 17 buts, Benzema avec 14, Enes Unal, le Turc de Getafe avec 13, Iago Aspas avec 12 et José Lu de l'Espagnol avec 12. Au niveau des meilleurs passeurs du championnat espagnol, eh bien là, c'est Antoine Griezmann avec 8 et Mikel Merino de la Real Sociedad avec 8. Mention quand même là, pour Rodrigo qui en a 7 et Lewandowski qui en a 6. Au niveau de ceux qui ont marqué le plus de buts sur coup franc, eh bien c'est Enes Unal avec 12 et Florian Lejeune avec, 12 avec 2 pour Enes Unal avec 2 sur 13 et Florian Lejeune avec 2 sur 16. Benzema en a marqué 1, c'est quand même intéressant, lui qui ne tire pas les coups francs d'habitude. Donc les prochains matchs pour la semaine prochaine, on a l'Espagnol et Cadiz, ça c'est le 21 avril. On a Osasuna, le Real Betis, ça c'est samedi. Almeria, Athletic Club, Real Sociedad, Rayo Vallecano. On a Real Valladolid contre Girona. On a également le Real Madrid qui reçoit le Celta Vigo. Dimanche, on a Elche Valencia. On a certains aussi à 10h15 dimanche, là, Barcelone, Atlético Madrid et Mallorca, Getafe, Séville, Villarreal et on va voir après ça le 25, là, Girona et Real Madrid. Donc voilà, c'était une petite présentation du championnat espagnol qu'on aime bien et qu'on vous encourage à regarder. D'ailleurs, RDS diffuse un match par semaine. Donc si vous avez le poste RDS, regardez là, la grille horaire de la chaîne de télévision québécoise pour voir quelle équipe sera présentée sur les ondes de RDS. Souvent, ils essayent de mettre une grosse équipe comme le Real Madrid ou le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid. Donc, on s'en va en musique et on revient après ceci.
Dame tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
C'était l'excellente chanson Ecuador de Sash, qui est une bonne chanson de dance, d'eurodance des années 90, début 2000. Donc voilà.
On va parler du CF Montréal. CF Montréal, qui est notre équipe de soccer montréalaise, mesdames et messieurs. Notre équipe qui est là, qui a connu une très belle saison l'année dernière. Mais qui, cette année, ça va extrêmement mal à date. Mais, comme je vais vous le dire, il faut pas tout de suite tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a un contexte particulier à ce début de saison côté CF Montréal. Tout d'abord, je veux vous nommer les joueurs blessés à l'heure actuelle, les joueurs de l'entraîneur argentin Hernán Losada du CF Montréal. Romel Kyoto, qui est notre meilleur attaquant de loin, blessé. Et qui est probablement notre joueur le plus technique international du Honduras, il est blessé. Mason Toy, attaquant américain de 24 ans, blessé. Même s'il ne connaissait pas un bon début de saison et une demi-fin de saison l'année dernière, c'est quand même un joueur important, blessé. Giorgio Cuisera n'est pas là. On a Lassi Lapalainen, le piston qui joue à gauche. Donc lui qui fait tout le terrain, c'est-à-dire qui joue en défense, qui joue en attaque, il monte supporter l'attaque et il revient défendre. C'est un poste très important, blessé. Samuel Piet, capitaine, milieu de terrain, blessé. Matko Miljevic, qui est un des meilleurs tireurs de coups francs de l'équipe, blessé. Lui, il est très souvent blessé, là, mais il est blessé. Puis cette année, j'espérais le voir et j'espère le voir jouer titulaire parce que c'est un bon joueur et on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'espère le voir. Également, George Campbell, blessé. James Pantemis, gardien titulaire, blessé. Parlant de James Pantemis, il faut aussi mentionner que Jonathan Sirois, le gardien québécois de l'équipe, est un des rares joueurs de l'équipe à avoir connu souvent des bons matchs parce qu'il n'a pas donné de mauvais buts vraiment. Là, il a été laissé à lui seul, mais il fait un bon travail quand même en remplaçant James Pantemis. Donc ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal manque beaucoup de joueurs importants. Et en plus, sur les 7 premiers matchs, parce qu'hier c'était le 7e match, nous avons joué seulement que 2 matchs à domicile et 5 matchs sur la route. Vous comprendrez que c'est à cause de la météo et à cause aussi que j'imagine que l'organisation du CF Montréal ne veut pas jouer la plupart de ses matchs au Stade Olympique, qu'elles aimeraient bien jouer leurs matchs du côté du Stade Saputo. Et donc, le seul match qu'on a joué à domicile au Stade Olympique, on l'a gagné 3-2. Et hier, c'était le match d'ouverture au Stade Olympique contre une équipe très faible, honnêtement, du DC United, qui est une équipe là qui, après les avoir vus jouer hier, je comprends pourquoi ils ont terminé dans le bas-fond du classement l'année dernière. Ils sont d'ailleurs entraînés par un certain Wayne Rooney. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Wayne Rooney? International anglais très important, un des meilleurs attaquants du côté de l'histoire de l'Angleterre. J'en parlais d'ailleurs hier avec un collègue journaliste qui me disait que lui, il mettait dans le top 20 des attaquants de tous les temps. Je dois faire ma liste, mais moi je lui ai dit clairement que non. Mais ça reste que ça a été un très grand attaquant. Et puis hier, ça faisait plaisir de le voir côté conférence de presse. J'étais assis devant lui. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai posé la première question. On va vous la partager tout à l'heure. On l'a mis ici là dans la palette de Jazzler. Donc on va pouvoir appuyer sur play tantôt, c'est déjà tout installé. D'ailleurs, Wayne Rooney qui vient de Liverpool et donc son accent anglais, des fois il est difficile un peu à comprendre pour certaines personnes qui ne sont pas habituées avec l'accent de Liverpool qui est un accent quand même très particulier. Donc voilà, ils sont entraînés par Wayne Rooney, ils ont des bons joueurs comme Christian Benteke qui est un ancien international belge quand même, il faut le rappeler, et ils ont l'attaquant grec Funtas aussi, qui est quand même très intéressant. Puis ils ont un international polonais, Mateusz Klich. Donc ils ont quand même des bons joueurs, tout comme le CF Montréal, qui on a Victor Wanyama, qui est notre seul joueur désigné. Donc le match hier, la table était mise pour une victoire du CF Montréal à domicile. La température était parfaite. Malgré les blessés, on espérait quand même aller chercher 3 points. Les premières 30 minutes ont été désastreuses. Ça a été un des pires matchs que j'ai vu depuis que je regarde le soccer. Donc depuis que j'ai environ 15 ans, j'ai rarement vu un match aussi faible du côté des deux équipes, là, techniquement, tactiquement, au niveau de l'envie, au niveau de l'arbitrage aussi. L'arbitrage a été très douteux durant ce match-là. D'ailleurs, l'arbitre a donné que 2 minutes à la fin du match pour le temps additionnel, ce qui ne se fait jamais au niveau du soccer, surtout quand il y a eu énormément de changements et que DC United a perdu du temps. Donc, arbitrage quand même assez médiocre, il faut le dire. C'est rare que j'utilise ces mots, mais ça a été le cas. Ça a été un arbitrage médiocre. Et DC United a ouvert le score en début de deuxième mi-temps. Avant de parler du score et du but, on va vous donner le 11 initial du CF Montréal hier qui s'est présenté au Stade Saputo. Jonathan Sirois dans les buts. Défense centrale à 3 avec Aaron Herrera, Rudy Camacho et Joel Waterman. Vous comprendrez que Kamal Miller, international canadien, a été échangé à Miami, à l'Inter de Miami, avec une somme d'argent contre 2 joueurs qui ont joué hier, dont un, Bryce Duke, le numéro 10, et l'autre, Ariel Lasseter. Donc, ça a été 2 nouveaux joueurs qui sont débarqués du côté de Montréal. D'ailleurs, Bryce Duke, lui, jouait en manche longue. Donc, lui qui jouait à Miami, pour lui, peut-être qu'il trouvait ça froid hier. Mais tout le monde était en manche courte, sauf Bryce Duke. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Donc, voilà. Milieu de terrain, Victor Wanyama, Ilias Iliadis, l'international canadien et grec. Piston à gauche, Mathieu Chouanière, et à droite, Zachary Broguiard. L'attaque était composée de Bryce Duke, Ahmed Hamdi et Chinonso Ofor, l'attaquant nigérien. Et en attaque, côté DC United, on avait Christian Benteke et Taxiarchis Funtas, le grec. Donc voilà. Et le match a été vraiment mauvais, honnêtement, en première mi-temps. Le CF Montréal a essayé, mais au niveau technique, c'était pas là. Au niveau tactique, c'était pas là. Il y a eu très peu, on a utilisé très peu les pistons comme on le faisait avec Johnson et Lapalainen. Il y a très peu de joueurs dans ce 11 partant qui ont la capacité vraiment d'éliminer et de dribbler. Donc quand Kyoto est pas là, quand Johnson n'est plus là, quand Lapalainen n'est pas là, quand Georgi Mihailovic n'est pas là, ça fait mal. Même, il faut le mentionner, Joaquin Torres qui joue maintenant à Philadelphie, là, il avait cette capacité à faire, à dribbler, à éliminer, même si il le faisait rarement, mais au moins ça donnait un petit espoir. Et donc, le CF Montréal s'est incliné 1-0 en tout début de deuxième mi-temps avec un but de Lewis O'Brien. C'était un long ballon dès le coup d'envoi. Ils ont envoyé ça dans la boîte DC United. Et puis, ils ont récupéré le ballon, puis ils ont marqué. Ça a été vraiment, c'était pas un des plus beaux buts. Et l'entraîneur Hernan Lozada, on va l'écouter dans quelques minutes, là, était très fâché de cette situation-là, parce qu'il a dit justement que DC United, une des seules choses qu'ils font très bien, c'est les longues balles avec Benteke, qui est quand même costaud, et qui est capable de récupérer des ballons dans les airs. Tout comme nous, avec Chinonso Ofor, notre attaquant principal, un attaquant costaud, qui dans les duels est extrêmement bon. D'ailleurs, hier, c'était le match là de la longue balle pendant presque tout le match. C'est rare que j'ai vu ça, mais c'était des longs ballons d'un côté et de l'autre. Et Chinonso Ofor, il peut être bon, il peut donner son 100% comme il l'a fait hier d'ailleurs. On tient à le féliciter pour ça. Mais il peut pas faire ça tout seul là. Il n'avait pas beaucoup de support. J'ai été satisfait de la performance de Chinonso Ofor parce qu'il se donne, il essaye et c'est un des seuls joueurs qui nous a donné l'espoir de peut-être marquer un but. J'ai aimé également la performance du gardien de but Jonathan Sirois. J'ai trouvé qu'il a été encore une fois efficace, il a été bon. J'ai aimé la performance de Victor Wanyama au milieu de terrain qui a fait ce qu'il a pu. Bryce Duke, il a essayé, mais pour son premier match, on va lui donner du temps là. Mais ça reste que cette équipe-là du CF Montréal n'est pas du tout comme elle était l'année dernière. Elle est à des années-lumière et à l'heure actuelle, on est les 3e pires de toute la Ligue. Il y a seulement 2 équipes qui sont pires que nous et honnêtement, c'est un miracle d'en avoir 2. Là, on a à l'heure actuelle LA Galaxy qui ont 1 match de moins de jouer que nous. Donc, ils ont 3 points, 3 matchs nuls, 3 défaites. Et Kansas City, 8 matchs joués, 3 matchs nuls, 5 défaites. Kansas City, c'est 2 buts marqués, 11 encaissés. LA Galaxy, c'est 3 buts marqués et 9 encaissés. Et le CF Montréal, c'est 3 buts marqués pour 17 buts encaissés. Et donc, on a la pire défense de toute la Ligue et on a la 2e pire attaque de toute la Ligue. Voilà. Et là, on a une semaine importante puisque mardi, on joue contre Vaughan Azzurri, qui est une équipe de la région de Toronto, si je ne me trompe pas, une équipe de l'Ontario. C'est pour le championnat canadien, c'est pour la Coupe. Et donc ça, c'est un match qu'il ne faut définitivement pas perdre. Dans le pire des cas, peut-être, je vous dirais, gagner. Hein? Ça serait la meilleure des choses qu'on préfère avec Vaughan FC. Mais il ne faut pas perdre ce match-là parce que là, c'est même pas une équipe de MLS. Et si on perd ce match-là, honnêtement, je peux vous assurer que l'entraîneur ne sera pas content. Et je ne sais pas si l'entraîneur va rester longtemps s'il n'y a pas une victoire mardi. S'il y aurait une défaite mardi contre Vaughan à Zurich et s'il y a une défaite samedi prochain contre New York Red Bulls, je pense que son poste d'entraîneur-chef pourrait être en danger. C'est mon opinion parce que là, ça serait vraiment catastrophique. Vaughan FC, il faut les battre pour le championnat canadien. Puis on sait, là, le championnat canadien te donne une chance de participer à la Ligue des champions de la CONCACAF, qui est une compétition très relevée, compétition à laquelle d'ailleurs Vancouver, les Whitecaps ont participé cette année. Et donc, c'est un match à gagner, je le répète. Maintenant, au classement, dans le top de la MLS, on a St. Louis avec 18 points en 8 matchs. Deuxième, New England. Troisième, Cincinnati. Quatrième, Seattle. Cinquième, Atlanta. Sixième, Columbus. Septième, Los Angeles FC, bien sûr, qui, eux, ont des joueurs désignés, ont énormément d'argent. Il faut le rappeler aussi, Los Angeles, il y a beaucoup de Latinos. Et donc, les Latinos aiment le soccer. Donc, c'est un produit qui marche énormément du côté de Los Angeles. Ils ont deux équipes, c'est pas pour rien. Los Angeles FC et Los Angeles Galaxy. Dallas 8e, San Jose 9e, New York City 10e, Nashville 11e, Minnesota 12e, 13e Orlando, 14e Houston, 15e Vancouver, 16e Chicago, 17e Toronto. Toronto qui ont perdu leur joueur désigné Lorenzo Insigne qui est blessé encore malheureusement. Philadelphie 18e, ça c'est une surprise. 19e Portland, DC United 20e, Austin 21e, les Red Bulls de New York 22e, Colorado 23e, Miami 24e, Salt Lake 25e, 26e Charlotte, et je l'ai dit tout à l'heure, le 27e Montréal, 28e LA Galaxy et 29e Kansas City. On est à l'heure actuelle là, dans l'Est, bien évidemment, dernier avec 3 points. Et la première place pour les playoffs a 10 points à l'heure actuelle et c'est Chicago Fire qui est là. Mais il reste encore, environ là, un peu moins de 30 matchs à jouer. Donc la saison est extrêmement longue. Il faut le rappeler également, moi j'avais dit que à la fin de la semaine qui s'en vient, donc dimanche prochain dans une semaine, je vais pouvoir poser un vrai diagnostic et une vraie analyse sur la saison du CF Montréal, puisque quand on commence la saison avec 5 matchs sur 6 à l'étranger, c'est normal de pas avoir les résultats escomptés, surtout quand on joue contre des bonnes équipes comme Nashville, comme Austin, qui sont des équipes là qui ne sont pas faciles à manœuvrer. Là, cette semaine, on va jouer mardi contre une équipe d'une division inférieure et samedi prochain, on va jouer contre une autre équipe de la MLS, mais à domicile. Ce sont deux must-win. Si on perd les deux matchs, je pourrais commencer à dire que la saison du CF Montréal va être très difficile et potentiellement une élimination déjà très hâtive des séries éliminatoires, tout comme le Canadien de Montréal. Donc, ça ferait deux équipes cette année du côté de la région de Montréal qui seraient très mauvaises, avec peut-être les Alouettes et l'Alliance de Montréal, on ne sait pas. Là. Mais on espère qu'au moins une de ces quatre équipes-là, une des trois équipes qui restent, le CF Montréal, l'Alliance de Montréal ou les Alouettes, pourront offrir quelque chose d'intéressant aux partisans. Parce qu'hier, côté Stade Saputo, il y avait 16 000 personnes. Là. 16 000 personnes, c'était presque plein. Du moins, le stade paraissait plein, là, mais il l'était pas, selon les chiffres. Moi, je pensais qu'il l'était. Avec beaucoup de gens qui ont acheté des billets pour supporter une équipe qui allait très mal et qui n'offrait pas grand-chose sur le point de vue du jeu et aux fans. Et donc, on remercie les fans d'avoir été supporter l'équipe du CF Montréal. Vous pouvez retourner d'ailleurs mardi pour le match de Coupe canadienne contre Vaughan à Zurich. Ça va être intéressant. Puis les billets, je pense, vont être moins chers par rapport à ça. Et également, un petit fait intéressant, là, depuis le début de la saison, donc en sept matchs, le CF Montréal a marqué combien de buts, vous pensez, à 11 contre 11 dans le jeu? Là, je parle pas de coup franc ou de penalty. Combien de buts à 11 contre 11 vous pensez que le CF Montréal a marqué en 7 matchs? La réponse, c'est un gros zéro, mesdames et messieurs. Zéro but. Nous n'avons pas marqué un seul but à 11 contre 11 cette année en 7 matchs, sauf le but de Romel Kyoto sur un tir de pénalité lors du match à domicile contre Philadelphie. Sur un penalty, c'était le seul but qu'on a marqué à 11 contre 11 et c'était sur une main. C'est vrai que peut-être le ballon se serait dirigé vers le but, là, dans le but. Donc peut-être que ça aurait été un but dans le jeu, mais ça reste que ça a été un penalty. Et donc, en 7 matchs, je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'une équipe ne marque pas un seul but dans le jeu. Et donc, c'est intéressant. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, le côté CF Montréal. C'est dangereux. J'étais là hier au match. Bien sûr, j'ai eu une accréditation, comme d'habitude, puisque j'ai l'accréditation de saison pour le CF Montréal. Et les visages là aux conférences de presse après là, c'était pas jojo. Les joueurs étaient pas contents, l'entraîneur non plus, et on les comprend. Il faut que les choses changent et il faut que quelque chose se passe très prochainement. D'ailleurs, on remercie le CF Montréal de nous donner une accréditation pour aller les voir jouer, puisqu'ils n'ont aucune obligation de faire ça. On est très bien accueillis, je tiens à le mentionner. Et cette année, contrairement à l'année dernière, je crois que l'année dernière, il y avait un peu une empreinte de COVID. Cette année, il n'y en a pas. Et à ma grande surprise, quand je suis débarqué dans la galerie de presse, je n'ai pas vu les lunchs. On nous donne d'habitude des boîtes à lunch à 6 heures pour manger quelque chose. C'est une façon pour le club de nous remercier de couvrir l'équipe. Et je demande à la personne responsable des médias, je lui demande, ils sont où les boîtes à lunch? Puis il n'y a plus de lunch cette année. J'ai dit peut-être qu'il n'y a pas de budget. Il y avait d'ailleurs de la moutarde puis du ketchup dans la galerie de presse. Donc j'ai dit peut-être que ça va juste être des hot dogs, ce qui m'aurait vraiment déplu parce que je mange pas ça, là. Mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Puis là, il nous dit non, cette année c'est un buffet. Donc là, je m'en vais dans la salle où est-ce qu'il y a la conférence de presse d'après-match. Puis là, qu'est-ce que je vois? Un buffet, mesdames et messieurs, des salades, du Perrier, du fromage, des viandes froides, des raisins. Et surtout, hier au menu, c'était des pâtes avec du fromage. Il y avait également du poulet général Tao, mais pas du poulet général Tao, là, deep fried, là, du poulet général Tao de classe et des fish and chips, un fish and chip délicieux, mesdames et messieurs. Donc, on mange bien du côté du CF Montréal, là, et on les remercie pour nous ouvrir les portes du Stade Saputo à CISM et surtout, je vais le mentionner, là, sans aucune gêne, à CFAC, puisque CFAC est la radio avec laquelle j'ai commencé et c'est une radio à laquelle, dans laquelle je participe toujours et j'ai une émission qui s'appelle Soccer Sport tous les lundis soirs à 20h. Donc, voilà. C'était ça pour le CF Montréal. On espère que les choses s'améliorent. Je vais vous donner les résultats côté MLS. Je suis en train de vous trouver ça ici avec mon appareil puisqu'on a eu des petits problèmes techniques aujourd'hui. L'imprimante ne fonctionnait pas bien. Elle fonctionne pas toujours bien, l'imprimante ici à CISM. Donc, Charlotte, Colorado 2-2. Red Bulls, Houston, Dynamo 1-1. Columbus Crew, New England 1-1. New York City FC 2 contre Nashville 1. Toronto contre Atlanta 2-2. Dallas, Real Salt Lake 2-1. Minnesota perd à domicile 2-1 contre Orlando City. Austin, Vancouver, Whitecaps 0-0. Chicago, Philadelphie 2-2. San Jose contre Sporting Kansas City 3-0. Sporting Kansas City qui est une des pires équipes de la Ligue. Elle est pire que Montréal. Portland bat Seattle 4-1. Ça, c'est une surprise. Et Saint-Louis qui continue son début de saison incroyable puisque c'est une équipe d'expansion avec une victoire de 5-1 contre le FC Cincinnati à domicile. João Klaus, le Brésilien, n'a pas marqué de but, ce qui est quand même intéressant. Là, quand ils ont marqué quand même 5 buts, il n'en a pas marqué un seul. Donc voilà. Maintenant, on va aller écouter Wayne Rooney et sa conférence de presse d'après-match. Et ensuite, on va y aller avec le coach du CF Montréal, Hernan Losada, qui était quand même hier pas de bonne humeur. Puis on le comprend, là, il était quand même classe, il a répondu à nos questions. Mais ouais, ça se voyait là, qu'il était pas de bonne humeur. Donc on écoute ça et on revient.
Hi, coach. Thank you for your time. What made the difference tonight for your team?
I think we just the shape, the team shape, been playing recently. We do match once more up and we thought that caused the problems and we thought we had a energy in the team and on transition we looked really dangerous. A little bit more care, we should score more goals and I thought we executed the job I wanted to do, perfectly.
Thank you.
Voilà, donc c'était Wayne Rooney qui nous a donné une entrevue d'après-match. C'était impressionnant, comme je l'ai dit, là, de le voir en personne. Il a dit qu'il était satisfait de son équipe. Ils ont joué beaucoup de ballons longs. Et puis, ils auraient aimé, par contre, marquer un peu plus de buts, parce qu'on sait que c'est seulement un but. Puis, ils ont quand même deux attaquants qui ont de l'expérience et surtout qui peuvent marquer des buts. Et ils n'en marquent pas beaucoup, Funtas et Benteke. Donc voilà, c'était pour Wayne Rooney. Maintenant, on va y aller avec le coach du CF Montréal. J'ai nommé Hernán Losada.
Hernán, peux-tu m'expliquer ce qui est arrivé sur la séquence que vous avez vu en début de deuxième début?
On a monté les images avant le match. On a toujours mis qui montre les points forts de cette équipe. Dans ce cas, avec DC United, il y a un point fort. Ça, c'est le long ballon pour Benteke et pas seulement sur le jeu, mais aussi avec les kick-off. On a rentré absolument dormi et on n'était pas là, attentif pour le deuxième ballon et ils sont mal dans une situation incroyable. Donc, je suis vraiment déçu parce que ce sont des choses qu'on parle à la semaine, qu'on dit, qu'on travaille, mais dans les jours de match, ça arrive et ça passe.
Bonsoir coach, est-ce que vous sentez que vous avez toujours le support de vos joueurs et de votre vestiaire avec vous?
Oui.
Yes. Hi, Mr. Pat. Hi, man. Can you kind of talk about the change in formation around the 70th minute? You know, you took out fullback and you played almost with four defenders and you created space with wingers. You had Ariel and you had Sunusi out wide. Can you kind of talk about your approach there? And do you think that's something that you could be using in the future given that you did create a few chances for them?
Yeah, against this team that is so powerful in the air, I think the space is wide on the outside. That's why we try to open up the field as much as we could. That's the way we create a few opportunities at the end. So there's nothing much else to do. You put balls in the box. You try to create also opportunities from set pieces. But one of the strongest points from this team, from the opponent, are the aerial duels and how powerful they are in the air. So we try to combine also. We started the game with Hamed, then with Duke, to have players to combine between the lines. We try absolutely everything. Even today, with Hamed Hamdi from the start, we could say that we already gave opportunities to all the players in this roster. Now that the two new players arrive, well, it's trial. Hopefully, injured players are coming back, and we can also have a little bit more competition in between the roster.
Voilà, donc c'était l'entraîneur en chef Hernán Losada du CF Montréal. Donc, vous l'aurez compris, c'est moi qui lui ai posé la question s'il avait toujours le vestiaire et les joueurs étaient derrière lui. Il a répondu par un seul mot et il a dit oui. Et honnêtement, à sa place, j'aurais probablement répondu la même chose. C'était une question pour voir si peut-être il allait m'en donner un peu plus, mais je suis tout à fait satisfait avec sa réponse. Parce qu'on peut penser que il y a un manque de motivation de certains joueurs, etc. Mais il semble dire que les joueurs sont avec lui. Mais il faut le répéter aussi. Il faut pas se faire d'histoire là. C'est un club dans lequel il y a eu énormément de changements. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés. Donc Waterman l'a d'ailleurs dit durant son entrevue d'après match. Ça prend du temps pour avoir une cohésion d'équipe. Et à l'heure actuelle, la cohésion n'est pas au top. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on l'espère, ça deviendra une vraie équipe qui sera soudée comme l'était l'équipe l'année dernière, parce que l'année dernière, durant toutes les conférences de presse, ça revenait souvent, le groupe était incroyable et tout le monde était soudé, tout le monde se supportait les uns et les autres. Voilà. Et également, il a mentionné aussi en anglais, là, un de mes collègues, que DC United, une de leurs forces, c'était le jeu aérien. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a essayé de passer un peu plus vers les ailes, les ailiers, les pistons à gauche et à droite, avec notamment Sunusi quand il est rentré, Ibrahim Sunusi. Mais ça n'a pas donné, malheureusement, grand-chose. Donc, voilà. On remercie encore une fois le CF Montréal de nous avoir accueillis hier et nous avoir permis de couvrir le match dans la galerie de presse avec les médias et d'avoir participé à la conférence de presse d'après-match. Maintenant, on va y aller en musique avec Maud Audet et sa chanson « Je danse » et ensuite, ça sera « Jamais je ne viens » de Otis Cœur. Bonne écoute.
« autre monde. Toujours loupé. T'as même pas essayé. T'as même pas essayé de trouver mon point. Jamais je ne viens, jamais je ne suis venu avec toi. Jamais je ne viens, jamais je ne reviendrai dans tes bras. Tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à ça. Si tu crois qu'on se reverra, tu te fous le temps. Et toujours au mauvais endroit. Et toujours au mauvais endroit.
Donc, c'était Maude Audet et sa chanson « Je danse ». De retour à Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h, 21h, CFAC, 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Juste pour vous mentionner également que maintenant, les samedis soirs, on est présent à 21h aussi sur les ondes de CFAC avec l'émission Dance Party, une émission qui regroupe toute la musique un peu dance des années 90, aussi de l'électro, du house, bref, de la musique pour vous mettre de la bonne ambiance pour un bon samedi soir passé sous le thème de la bonne musique dance. Voilà, donc écoutez ça. On a commencé samedi dernier, donc le podcast devrait être disponible sous peu sur le site du CFAC.ca. Donc maintenant, nous allons terminer l'émission avec, mesdames et messieurs, la Ligue des champions. On a eu les quarts de finale qui ont commencé et là, c'est les matchs retour des quarts de finale. Ça va se passer demain. Donc j'ai nommé évidemment le 18 avril et le 19 avril. Donc on a deux matchs demain et on en a deux mercredi. Donc pour commencer, on va vous donner les résultats tout d'abord de ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. La semaine dernière plutôt, pas la fin de semaine dernière. Donc tout d'abord, le 12 avril, le Real Madrid recevait l'équipe de Chelsea. Chelsea, c'est une équipe anglaise qui a beaucoup d'argent. Mais peu de résultats sur le terrain. À l'heure actuelle, ils ne se qualifieront même pas pour la prochaine Ligue des champions, à moins qu'ils gagnent celle-ci. Et ils ont perdu sans surprise 2-0 du côté du Santiago Bernabéu de Madrid, qui est le stade du Real Madrid, avec des buts de Benzema à la 21e minute et Marco Asensio à la 74e minute. Donc ça fait 2-0. L'arbitre était le français François Le Texier. C'est important de le préciser parce que des arbitres français en demi-finale et en finale de Ligue des champions, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a encore de finale, donc ça fait du bien à voir d'avoir des arbitres francophones de temps en temps. Également, ce match-là, il faut spécifier que les buts à l'extérieur, maintenant en Ligue des champions, ne comptent plus double. Avant, ce qui se passait, c'est que par exemple, si une équipe à domicile gagnait 1-0 et à l'extérieur, elle perdait 2-1, ça faisait en sorte qu'au total, c'était 2-2. Mais comme l'équipe qui avait gagné 1-0 à domicile a perdu à l'extérieur en marquant un but, eh bien, le but à l'extérieur comptait d'une certaine façon. C'était un tie-breaker pour départager en cas d'égalité. Et là, ça ne compte plus. Donc, Chelsea, qui n'a pas marqué de but à l'extérieur, pour eux, ça ne change pas grand-chose. S'ils gagnent à domicile par deux buts, on aura des prolongations. Mais entre vous et moi, petit secret ici là, d'expert de soccer, ça m'étonnerait beaucoup que Chelsea gagne contre le Real Madrid par 2-0. L'autre quart de finale, c'était Benfica qui recevait l'Inter de Milan. Benfica, équipe portugaise qui a connu toute une saison. Même si ils ont perdu leurs deux derniers matchs en Ligue portugaise, ils sont à 4 points de Porto en avance dans le championnat portugais. Donc ça devrait, somme toute, se faire pour être champion pour le club de Lisbonne. Mais c'est pas clair encore, c'est pas réglé. Et là, ils ont perdu le match aller 2-0 à domicile avec des buts de Barella à la 51e minute et Romelu Lukaku, l'attaquant international belge, sur penalty à la 82e minute. Ça se passait du côté du Estádio da Luz de Lisbonne. Il y avait 62 594 spectateurs pour ce match-là. Donc, c'était une grosse foule. Et je ne l'ai pas mentionné, mais du côté du Real Madrid, c'était 63 142 spectateurs, mesdames et messieurs. L'autre quart de finale, c'était Manchester City, le club anglais qui recevait le Bayern Munich, le géant allemand, et Manchester City a évidemment battu le Bayern Munich par 3-0 avec des buts de Rodri, Silva et Haaland au stade de City of Manchester Stadium devant 52 257 personnes. C'est très intéressant, c'est une belle foule, c'est la foule la moins nombreuse des quatre quarts de finale, mais quand même, ça c'est deux fois, c'est plus que deux fois le Centre Bell rempli là. Je dis juste ça comme ça entre parenthèses, je dis ça évidemment, je ne dis rien. Donc là, du côté des Allemands du Bayern Munich, ça va prendre une performance incroyable à domicile. En fait, il faut qu'ils battent Manchester City par 4 buts. On peut se dire que ça risque de ne pas arriver. Et en plus, pour Manchester City, Arsenal a fait match nul le week-end dernier en Ligue anglaise. Donc, ils sont très près là, de peut-être de revenir dans la course et d'être champion anglais. C'est pas fait encore, mais ça pourrait se faire très facilement, surtout s'ils battent Arsenal dans le match qui s'en vient très prochainement. Voilà. Également, dans ce match-là, il y aurait eu une bagarre. En fait, Sadio Mané aurait mis une claque à Leroy Sané dans le vestiaire après le match. Sadio Mané a été suspendu par le club du Bayern Munich, ce qui est rare que ça l'arrive, là, mais il a été suspendu par son propre club. Faut dire aussi que Leroy Sané, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui a tendance à ne pas utiliser son plein potentiel. Il a un talent incroyable, mais sur le terrain, souvent, les décisions ne sont pas les bonnes. Il perd beaucoup la balle, il essaye de jouer compliqué, mais il a vraiment un talent incroyable. Je ne sais pas si c'était à l'origine de l'altercation avec Sadio Mané, mais ça reste à voir. Dernier quart de finale qui s'est passé, eh bien là, c'est un quart de finale italien à 100%. AC Milan qui recevait Napoli, donc l'Italie du Nord contre le club de l'Italie du Sud, Naples. Le seul club d'ailleurs d'Italie du Sud qui a gagné le championnat italien avec un certain Diego Armando Maradona dans les années 80 et début 90. Eh bien, l'AC Milan a gagné devant 74 742 spectateurs avec un but de Bennacer, l'Algérien, à la 40e minute. Et là, ça va être un match extrêmement chaud du côté de Naples. Ça va se passer demain. Si vous n'avez rien à faire demain, là, regardez ça à la télé ou même descendez jusqu'à Montréal, allez dans la petite Italie, allez regarder ça dans un bar italien. Là, ça va être une ambiance de feu parce que Naples et leur ambiance, c'est un endroit là, où est-ce que les gens mettent extrêmement d'émotion, extrêmement de passion pour le foot. Naples, c'est une ville vibrante qui bouge avec de l'électricité dans l'air. Et là, ça va être probablement le match le plus important qu'ils jouent peut-être depuis énormément d'années. Je dis ça comme ça, là, peut-être depuis les années Maradona. Un quart de finale de Ligue des Champions, match retour à domicile contre un club italien qui s'appelle l'AC Milan. Puis il faut le rappeler, Napoli n'a jamais participé aux demi-finales de Ligue des Champions, donc ça serait une première pour eux. Parmi les équipes présentes, là, elles ont toutes déjà gagné la Ligue des Champions, sauf Manchester City et Napoli. Donc, on va voir s'il y aura un nouveau gagnant cette semaine, à la fin de la compétition, qui va se dérouler, je crois, en mai. Donc, le programme, c'est quoi? Eh bien, demain, on a deux matchs. On a le Real Madrid qui se déplace à Chelsea et on a Naples qui reçoit l'AC Milan. Et mercredi, eh bien, le Benfica va se déplacer du côté de l'Inter Milan en Italie et Manchester City va se déplacer du côté de l'Allemagne et du Bayern Munich. Les demi-finales auront lieu les 9 et 10 mai et 16 et 17 mai pour les deuxièmes matchs, les matchs retour. Et la finale, elle aura lieu le 10 juin. Et puis, ça se passera du côté du stade Atatürk à Istanbul, ce n'est pas la première fois qu'il reçoit le stade. Là. D'ailleurs, Liverpool avait battu l'AC Milan dans ce stade-là, si je ne me trompe pas. C'était en 2005, alors qu'ils perdaient 3-0 à la mi-temps. Ils sont revenus pour faire 3-3 et pour gagner en tir de penalty. Donc, c'était vraiment une sensation incroyable pour le club anglais. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Soccer Sport. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, 20h, et samedi soir, 21h, pour ceux qui veulent écouter, bien entendu, Dance Party.